Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver Éphésiens 6. Et je commence au verset 10. Au reste, frères, il n'y a pas le mot frère, je m'excuse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre d'autres personnes, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, c'est l'appel de l'Esprit à chaque croyant de se rappeler tous les jours que nous vivons dans un monde en guerre. Mais la guerre, ici, n'est pas entre les différents pays de ce monde, pas entre les différents individus ou groupes d'individus, mais la guerre est entre nous, d'un côté, et le malin et tous ses esprits. Et une des armes que Dieu nous appelle à prendre, c'est verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alors le soldat romain, on nous dit, avait deux types de boucliers. Il avait un petit bouclier rond qu'il utilisait dans le combat rapproché lorsque c'était important pour lui de pouvoir manœuvrer facilement, donc il pouvait le tenir facilement dans la main. Et puis il avait aussi un grand bouclier, un truc un peu rectangle, qu'il utilisait lorsque l'armée avancer. Nous avons aujourd'hui des chars, mais à l'époque, c'était presque comme des chars humains. Ils avançaient en bloc contre l'ennemi. Et ce grand bouclier, c'est le mot que utilise Paul ici dans notre texte. Donc ça mesurait à peu près 1,40 m de large. Je sais pas, quelque chose comme ça, presque la taille d'une personne, une petite personne. Et environ 60 cm de large. Donc ça pouvait couvrir complètement le corps du soldat, s'il le tenait un peu au-dessus de la terre. Et quand les soldats avançaient, donc en rangée, ils pouvaient avancer bouclier, presque attaché à bouclier, tout un rang, et ces colonnes faisaient comme un mur solide, qui bougeait vers l'ennemi. Ces colonnes qui avançaient, on les appelait les phalanges, elles étaient vraiment la terreur des ennemis de Rome. C'est ainsi que Rome a gagné beaucoup de batailles, parce qu'on ne pouvait pas résister contre ces boucliers. Et je veux noter ce soir, d'abord, l'importance donnée à cette arme. Et on le voit au moins de deux moyens. D'abord, on voit la répétition du verbe « prenez ». Vous voyez ça au verset 13. C'est pourquoi « prenez toutes les armes de Dieu. Et puis il se sert de d'autres verbes. Ayez à vos reins, revêtez, mettez pour chaussures, etc. Et après il arrive au verset 16 et il va dire prenez encore. Il revient à ce premier verbe. Prenez le bouclier de la foi. Mais la deuxième chose qui souligne l'importance, c'est la présence de ce mot « tout ». Littéralement en grec, même l'ordre du mot, ce serait « en tout, prenez le bouclier de la foi ». En tout. Et il y a deux manières de comprendre ce tout. On peut comparer le tout aux autres armes. Donc il y a toutes les armes qui sont là. Hein. Il y a la ceinture. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? Hein, il y a la ceinture et puis on a vu la cuirasse. Voilà. Et puis on a vu les chaussures. Et on arrive au bouclier. Ouais. Et donc il dit, ok, parmi toutes ces armes, prenez le bouclier de la foi. Donc, il semble qu'il y a toutes les armes, mais le bouclier est la plus importante arme. Et ça, on le voit dans la NEG. Hein. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le Darby dit, par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi. En tout, il dit, mais on pourrait aussi penser à ce mot « tout », pas en pensant aux armes, hein, parmi toutes ces armes, prenez le bouclier à la fois, mais encore plus large que ça, en tout, c'est-à-dire en toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi. Et donc la semeur dit cela, je vais vous la lire. « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier ». Ou, si vous avez le second 21, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Donc, si on le comprend comme cela, hein, parce que la Bible dit en tout, prenez, et si on dit, ok, le tout ne fait pas référence ici aux autres armes, parmi toutes les armes, prenez le bouclier de la foi, mais dans toutes les circonstances, eh bien, c'est en train de nous dire qu'il n'y a pas de circonstances dans laquelle nous n'avons pas besoin de faire appel à la foi. Si moi je devais choisir, je choisirais plutôt cette deuxième option. Je pense qu'il est en train de dire en toute chose, hein, prenez le bouclier de la foi. Mais qu'on prenne ce mot de la première manière, hein, parmi toutes les armes, avant tout c'est le bouclier, ou la deuxième option, dans toutes les circonstances, prenez le bouclier de la foi. La priorité de la foi est quand même évidente. Il faut la foi. On ne peut pas laisser tomber la foi. On ne peut pas prendre toutes les autres armes et puis oublier la foi. Il dit ici, en tout, prenez le bouclier de la foi. Il ne faut jamais qu'il y ait un moment qu'on se trouve sans la foi. Il ne faut jamais même utiliser les autres armes sans en même temps se saisir et utiliser la foi. Il faut la foi avec les autres armes, il faut la foi dans toutes les circonstances. Voyez l'importance de la foi. Est-ce que nous sommes conscients, quand on se lève le matin, l'importance? Aujourd'hui, je dois me servir de la foi. Je dois vivre par la foi. Je dois marcher par la foi. Toutes mes décisions doivent être prises en utilisant la foi. Toutes mes réactions, toutes mes pensées même, et mes prières aussi. Tout doit être utilisé en exerçant la foi. Donc, notez deuxièmement donc la nécessité constante et intentionnelle de recourir au bouclier
de la foi. Asmer dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. J'aime bien ça. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Et la nécessité qui, on le voit la nécessité dans le verset, que ça découle des attaques constantes de l'ennemi. Vous voyez ça dans le verset 16? Regardez-le. Prenez par-dessus tout cela le bouclier, ou prenez dans toutes les circonstances le bouclier de la foi. Pourquoi? À quoi ça sert? Ben, il nous dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a ces attaques constantes de l'ennemi. Si vous regardez le verset 11, il va parler des ruses du malin. Il faut tenir ferme contre les ruses du diable. Et si vous regardez le verset 12, il va nous dire que nous devons lutter. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre le diable et toute sa cohorte. Donc on sait déjà que c'est une lutte, et on sait que Satan se sert de ruses contre nous. Donc ce n'est pas un air de jeu, c'est un champ de bataille. Mais voici, dans ce verset, nous avons une idée de comment l'ennemi lutte contre nous. Et notez le mot « tous », avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça suggère une multiplicité d'attaques. Ce n'est pas un trait ici et là, c'est des flèches qu'il envoie constamment. Et si vous connaissez le voyage du pèlerin, quand il arrive à la porte qui représente le salut, il décrit cette porte, il dit que non loin de là, il y a un château. Et le prince de ce château, qui est le malin, il est toujours en train d'envoyer des flèches enflammées vers ceux qui s'approchent de la porte. Mais ce verset nous dit que les flèches continuent à arriver même après avoir passé la porte. Même après que nous sommes en Christ, il continue à envoyer ces flèches. Et donc, la deuxième chose ici, c'est que la nécessité découle des différentes stratégies d'attaque employées par l'ennemi. Il parle ici, c'est très pictoresque ici, il dit que vous pourrez éteindre tous les traits, quel est le mot ? Enflammés du malin. Et ça, c'est une image que les gens à l'époque connaissaient probablement assez bien. Ils avaient entendu parler, s'ils n'avaient pas même eux-mêmes vécu ces choses. C'est que souvent, quand on envoyait des flèches ou des traits, on y mettait du feu pour que ça, quand ça tombait, ça pourrait faire autant du mal que possible. Il n'y avait pas encore les dynamites, on ne pouvait pas encore créer des explosions, mais on voulait créer le feu là où on pouvait. Et il fallait pas seulement se protéger de ses traits, mais il fallait pouvoir éteindre la flamme de ses traits qui entrent. Il y a des attaques où quand ça rentre, ça reste et puis ça brûle. Et il faut le bouclier pour nous protéger. Et je crois qu'une chose que l'Esprit est en train de nous montrer, c'est que l'attaque vient contre la foi. C'est-à-dire, la foi est à la fois ce qui nous protège des traits, mais les traits sont aussi envoyés contre la foi du chrétien. Parce que s'il peut détruire le bouclier, eh bien, il peut tout faire après. Et donc, l'attaque de l'ennemi vient contre notre foi. Et nous avons déjà dit, même peut-être plus d'une fois, que c'est en regardant ces armes qu'on peut apprendre comment Satan nous attaque, n'est-ce pas ? Parce que chaque arme Dieu nous donne pour nous protéger contre une attaque spécifique de l'ennemi. Et si on a besoin du bouclier de la foi pour nous protéger de l'ennemi, c'est que ces armes, ces flèches enflammées viennent contre notre foi. Il y a un pasteur du XVIIe siècle, donc ça fait longtemps, mais il a dit « Nous devons nous efforcer d'utiliser la foi pour contrer Satan, pour renforcer ce que le diable s'efforce d'ébranler par-dessus tout. Le diable s'efforcera d'ébranler avant tout notre foi et notre confiance en Dieu. » Et il dit, et lui, le diable, il fera ça, et nous efforcerons-nous pas de les renforcer, c'est-à-dire de renforcer notre foi et notre confiance. Si on sait que l'attaque vient contre notre foi et notre confiance, c'est ça que nous devons renforcer. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Il faut renforcer notre foi, il faut renforcer notre confiance en Dieu, parce que c'est ça qu'il veut détruire. Nous, on a besoin d'un grand bouclier et il veut le diminuer autant que possible. Et donc ce pasteur dit, par-dessus tout, gardons notre tête comme le serpent s'enroule et garde pour garder sa tête. Gardez la foi et vous gardez tout. Si la foi est en sécurité, tout est en sécurité. Fortifions-la et nous fortifions tout. Affaiblissons-la, affaiblissons la foi et nous affaiblissons tout. Qu'importe à Satan les autres péchés dans lesquels nous tombons, il vise notre assurance afin que nous doutions de l'amour de Dieu contre lequel nous avons eu l'audace de pécher. Donc, il est en train de dire que Satan, il nous pousse à pécher, mais il n'est pas content là. Hein. Il nous pousse à pécher pour qu'il peut, après, peut nous pousser à douter de l'amour de Dieu pour nous. Et il dit, c'est ce qu'il vise, en affaiblissant la foi dans les actes, par des actes particuliers de péché que nous commettons. Il sait que le péché engendre naturellement le doute. Et là où se trouve le péché, ne serait-ce qu'à un degré minime, il sait qu'il engendrera des doutes et des perplexités. Et là où il se trouve, il y a ce qu'il voudrait avoir, ce que Satan voudrait voir. Donc il s'efforce d'entraver la douce communion qui devrait exister entre l'âme et Dieu. Ça, c'est le but de Satan. Il nous pousse à pécher, mais après, pour entraver, pour arrêter notre communion avec Dieu. Et souvent même les chrétiens, ils voient leur péché, et ça devient même la cause d'une plus grande séparation avec Christ. C'est-à-dire, ils ne viennent pas à Christ à cause de leur péché. Ils se disent, oh, j'ai trop péché, je ne peux plus avoir cette communion avec Dieu. Et donc Satan, vraiment, il est malin, parce qu'il a eu deux victoires. Hein. D'abord, il nous a fait pécher, et puis par ce péché, au lieu de courir à Christ, comme nous devons faire, comme le pécheur doit faire, il s'éloigne encore plus de Christ. Même si Jésus a dit, je suis venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. Donc, nous devons avant tout connaître que ce que Satan veut pour chacun de nous ici ce soir, c'est de diminuer notre foi en Dieu, de nous faire douter de son amour par des circonstances difficiles, ou encore plus souvent par nos propres péchés, douter la bonté de Dieu ou l'amour de Dieu pour nous, et douter aussi, nous enlever l'espoir par rapport à l'avenir. C'est ça qu'il faut prendre. Il faut toujours se saisir de la foi comme bouclier. Et puis juste une dernière chose. Puis peut-être on reviendra une autre fois sur la foi. Mais notez ce qu'est la foi. C'est quoi la foi? Voilà, c'est la confiance, vous avez absolument raison. Et si on peut parler de Hébreux 11, hein, c'est la... Donnez-moi le verset exact. La foi et l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Ouais. Voilà, très bien, vous l'avez mémorisé, c'est bien. Ok, ça c'est la foi en tant que sujet. C'est-à-dire, moi j'exerce la foi. Et elle parle ici de cela. Hein. Il faut se saisir de la foi, notre confiance en Dieu. Mais la foi biblique a deux aspects. Elle a un objet et elle a aussi un sujet. C'est bien, nous sommes le sujet de la foi, c'est nous qui exerçons la foi. Sans la foi exercée, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Vous voyez, la foi, donc, c'est quand on croit en Dieu. Okay. Mais la foi aussi, c'est un objet. C'est un objet. Donc, vous ouvrez Jude. Je vais vous lire les versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Qu'est-ce que c'est la foi dans ce verset? Ma très sainte foi. Ouh, je ne sais pas pour toi, hein, ta foi, Marc, mais moi, ma foi est très sainte. Est-ce que ça parle de cela? Bon, l'exercice de ma confiance en Dieu, oui ou non? Vous êtes là comme si vous savez. Non! Qu'est-ce que c'est la foi dans ce verset? Oui, elle dit la fondation, c'est comme si on disait la foi chrétienne. Vous avez entendu cette phrase, hein? La foi chrétienne. Il y a la foi bouddhiste, hein, la foi musulmane, et il y a la foi chrétienne. Et c'est, on ne parle pas ici d'une confiance qu'on exerce en Dieu, on parle en fait de l'objet de notre foi. Tout ce paquet dans lequel nous avons mis notre confiance. Et il y a la foi chrétienne, il y a la foi en Jésus-Christ. Et donc quand on parle de la foi dans la Bible, il faut toujours garder à l'esprit ces deux aspects. Parce que en tant que sujet, je peux avoir une très grande foi, mais si ma foi est dans une personne, ou si ma foi est dans... étant Bouddha, ou si la foi est dans mes œuvres, même si je prends chaque fois le bouclier de la foi dans mes œuvres, ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Donc, il y a cet aspect où j'exerce la foi, mais aussi l'objet de la foi. Et donc, la foi chrétienne, en fait, c'est quand ces deux choses se connectent et se lient. Et la foi chrétienne, notre très sainte foi. Et moi, ma confiance ici, elle est peut-être petite, hein. Et Jésus dit, elle peut être petite comme un grain de sénevé. C'est pas grave. Mais si je fais le lien et je m'accroche à cette très sainte foi, ça c'est la foi chrétienne. Et c'est Dieu qui nous tient. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas l'intensité de notre foi qui sauve, c'est quoi? C'est l'objet de notre foi qui nous sauve. Et j'aime bien en Jérémie où il dit dans le même chapitre, « Maudit soit l'homme qui met sa confiance. » Et quelques versets plus tard, il dit, béni soit l'homme qui met sa confiance. Vous dites, attends, mais il y a un problème. Non, il faut lire toute la phrase. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Et béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Donc, le fait d'avoir confiance, le fait d'avoir foi ne nous sauve pas. C'est l'objet de notre foi. Donc, quand on dit qu'est-ce que c'est la foi, quand je me saisis de la foi, il faut penser à ces deux, comme deux mains qui vont se...
se lier ici. C'est-à-dire, tout ce que je connais de Dieu, il est sage, il est bon, il est puissant. Et puis, je m'accroche à cela. Et c'est ça qui crée le bouclier, qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Dieu nous aide à avoir cette foi.